l'Eucharistie et l'anthropologie, quel est le lien? Moi, j'étais vraiment émerveillée ce matin par la lecture de Jérémie, parce que je me suis dit, on a quand même, enfin je pense hein, qu'on ressent tous un certain malaise face à notre culture actuelle, n'est-ce pas? Je suis la seule peut-être, mais bon, non, ok, d'accord. Il y a des choses qui vont vraiment mal, et on voit que ça va mal, on voit qu'il y a beaucoup de souffrance autour de nous, et on n'a pas toujours les mots à mettre dessus. Et ce matin, donc, dans cette lecture de Jérémie, on parle de « Le Seigneur dit, Sion, incurable est ta blessure et profonde ta plaie. » Et je me suis dit, c'est vraiment, ça parle vraiment de nous aujourd'hui. Profonde est la plaie. Ça parle de notre culture. Incurable est ta blessure. En tout cas, on pourrait peut-être dire, mais humainement, est-ce que c'est curable? Pas de remède pour le cicatriser. C'est fort. Et en même temps, quelques lignes plus tard, le Seigneur parle de restaurer, de rétablir, de rebâtir. J'aurai de la compassion et il y aura des cris de joie. Donc, la fin de l'histoire, c'est toujours ça. Ce n'est jamais cette plaie profonde, mais elle est là. Et je pense que c'est un peu comme un médecin qui veut trouver un traitement et doit d'abord connaître la maladie. Il ne peut pas juste appliquer n'importe quel traitement, mais doit d'abord comprendre la maladie, faire un diagnostic. Et donc, je pense que la grande question de notre temps aujourd'hui, c'est la question anthropologique. C'est la question « qui est l'homme ?» Et si nous voulons être missionnaires aujourd'hui, si nous voulons être des chrétiens dans ce monde et pas le monde d'hier, nous devons comprendre notre culture. C'est une obligation d'un chrétien. Nous devons comprendre. Nous ne pouvons pas nous arrêter à rejeter, à dire « mais c'est fou ». Oui, c'est fou. Oui, c'est fou, je suis d'accord, mais nous ne pouvons pas nous arrêter là. Nous devons comprendre. Et c'est là, donc cette question, hein, qui est l'homme, concerne vraiment toute la vie. Ça concerne le début, donc est-ce que la vie au début a déjà de la valeur dès les premières semaines, premiers mois de son existence dans le ventre de sa mère? Une grande question aujourd'hui. Ça concerne la fin de la vie. Est-ce qu'elle a encore de la valeur quand la personne est âgée, malade, en fin de vie? Et ça concerne tout le temps entre les deux, avec toutes les questions d'identité, de sexualité, de relations, etc., etc. Bref, toute l'existence de l'homme est aujourd'hui questionnée, de son début à sa fin. Ces questions autour de l'existence humaine sont poussées, évidemment, par le progrès technique qui fait que tout semble réalisable. Fabriquer son bonheur individuel, y compris fabriquer la vie elle-même, est aujourd'hui monnaie courante. Manipuler la vie génétiquement, l'améliorer, la rendre plus performante, changer le sexe chirurgicalement, ralentir, voire stopper le vieillissement, rendre la souffrance physique évitable, tout cela n'est plus seulement des visions d'avenir fictives. Mais cela se fait, cela s'expérimente souvent, sans se soucier des conséquences, comme nous le voyons par exemple, et je vais en parler encore, de la méga tendance du transgenre. Aujourd'hui, le corps humain peut être adapté génétiquement, hormonalement ou chirurgicalement à une identité qui n'est plus matériellement située ou à des visions de la vie toujours plus parfaites, toujours plus exemptes des défauts. Et derrière cette fabrication, cette manipulation ou encore l'élimination douce du corps dans l'euthanasie, lorsque la souffrance, la perte de contrôle, l'âge font que la vie semble ne plus avoir du sens, derrière se cache une vision qui semble si séduisante pour l'homme occidental aujourd'hui et nous devons la comprendre. Tous ces développements sont réclamés au nom de la dignité humaine. C'est une atteinte à la dignité de la femme de devoir porter un enfant alors qu'elle n'a pas voulu être enceinte. Il est contraire à la dignité de devoir rester prisonnier du mauvais corps et de ne pas pouvoir choisir librement son sexe. La dignité exige que l'homme ne doive pas souffrir, mais puisse mettre fin à sa vie, lorsque la souffrance devient trop grande ou même simplement, comme c'est discuté aux Pays-Bas, lorsque on est fatigué de la vie. Ce qui peut évidemment arriver à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans. La dignité de l'homme est ce qui est au centre du débat anthropologique aujourd'hui. Mais en quoi consiste cette dignité? Est-ce que celui qui revendique le droit absolu à l'avortement agit au nom de la dignité, ou est-ce que celui qui s'engage pour la protection des deux vies, la mère et l'enfant à naître, agit au nom de la dignité? Celui qui réclame l'euthanasie légale, ou celui qui affirme qu'au contraire, l'euthanasie porte atteinte à la vie, à la dignité humaine? Si nous voulons être dans le monde sans être du monde, proche de nos contemporains, il est bien important de comprendre quelle idée de l'homme est poursuivie ici et pourquoi elle est si attrayante. Outre la conception chrétienne de l'homme, deux alternatives possibles s'offrent à nous. Le matérialisme et la gnose. Ne vous inquiétez pas, je vais l'expliquer. Mais c'est... Alors, moi, je vous dis déjà ma conclusion d'après, le matérialisme n'est pas notre problème. La gnose est notre problème. Et donc, il est absolument essentiel de la comprendre. Ces deux visions-là sont absolument incompatibles avec la conception chrétienne de l'homme et les deux produisent à coup sûr des catastrophes. Mais avant de les examiner, nous devons nous demander nous-mêmes si nous avons compris en profondeur qui nous sommes à la lumière de la vérité de Dieu. Car nous pouvons donner seulement au monde ce que nous avons reçu en premier. L'Église nous dit, le catéchisme d'ailleurs, c'est le livre après la Bible le plus passionnant du monde, c'est un livre, le catéchisme de l'Église catholique, qui parle de notre vie. Donc si vous le lisez, vous voyez qu'en fait ça parle de moi. Ça m'explique qui je suis, ça explique le monde, ça explique Dieu. C'est passionnant. Et donc ce catéchisme dit, la personne humaine créée à l'image de Dieu est un être à la fois corporel et spirituel. Le récit biblique exprime cette réalité avec un langage symbolique lorsqu'il affirme que Dieu modela l'homme avec la glaise du sol, il insouffla dans ses narines une haleine de vie et l'homme devint un être vivant. Genèse 2. L'homme tout entier, dit le catéchisme, est voulu par Dieu. Et vous allez voir combien c'est essentiel et combien ce n'est plus du tout la réalité de la plupart de nos contemporains. On est voulu par Dieu. L'Église nous dit que quatre choses constituent essentiellement l'être humain. Première, l'homme est fait à l'image de Dieu. Il tient donc une place absolument unique dans la création. Deuxièmement, dans sa propre nature, il unit le monde spirituel et le monde matériel, absolument central. Troisièmement, il est créé homme et femme. Et quatrièmement, Dieu l'a établi dans son amitié. De toutes les créatures visibles, seul l'homme est capable de connaître et aimer son Créateur. Lui seul est appelé à partager la vie de Dieu. C'est à cette fin, c'est toujours le catéchisme, c'est à cette fin qu'il a été créé et c'est la raison fondamentale de sa dignité. Et Sainte Catherine de Sienne s'émerveille en disant « Quelle raison t'a fait constituer l'homme en si grande dignité ? L'amour inestimable par lequel tu as regardé en toi-même ta créature et tu t'es épris d'elle. Car c'est par amour que tu l'as créée, c'est par amour que tu lui as donné un être capable de goûter ton bien éternel. » Donc ça nous dit quelque chose sur notre dignité. Notre dignité réside donc dans notre nature et non pas dans ce que nous faisons, ce que nous ressentons, etc. Et encore le catéchisme, parce qu'il est à l'image de Dieu, l'individu humain a la dignité de personne. Il n'est pas seulement quelque chose, mais il est quelqu'un. Il est capable de se connaître, de se posséder et de librement se donner et entrer en communion avec d'autres personnes. Et il est appelé par grâce à une alliance avec son Créateur, à lui offrir une réponse de foi et d'amour que nul autre peut donner à sa place. C'est vrai pour l'espèce humaine, mais c'est aussi vrai pour chaque individu. Nul autre peut donner cette réponse-là à mon créateur, à ton créateur, à part toi. La justification de notre dignité est le fait qu'on soit créé à l'image de Dieu. Et cela veut dire corps et esprit, corps et âme. Dans ce contexte de cet enseignement, je l'utilise de manière interchangeable, âme et esprit. Qu'on est créé homme et femme capable d'une relation avec Dieu. Souvent, le terme âme désigne dans l'Écriture sainte la vie humaine ou toute la personne humaine. Âme signifie le principe spirituel de l'homme et le corps de l'homme participe à la dignité de l'image de Dieu et le corps humain précisément parce qu'il est animé par une âme spirituelle. Et c'est la personne humaine tout entière qui est destinée au salut, tout entière. Ce n'est pas que notre âme, ce n'est pas que notre esprit. Dans Gaudium et Spes, on peut lire « corps et âme, vraiment un ». L'homme, dans sa condition corporelle, rassemble en lui-même les éléments du monde matériel qui trouvent ainsi en lui leur sommet et peuvent librement louer leur créateur. Je traduis, parce qu'on a un corps, on peut librement, un corps et un esprit évidemment, mais sans corps ça serait pas possible, librement louer notre créateur. Il est donc interdit, dit Gaudium et Spes, il est donc interdit à l'homme de dédaigner la vie corporelle. Mais au contraire, il doit estimer et respecter son corps qui a été créé par Dieu et qui doit ressusciter au dernier jour. Par conséquent, l'homme peut agir contre sa dignité en niant une de ses réalités qui le constitue. Bien qu'il reste évidemment créature, il ne peut jamais ontologiquement perdre sa dignité, mais il peut agir contre ce qu'il est en vérité. Nier qu'on est fait à l'image de Dieu, nier qu'on est corps et esprit, nier qu'on est homme et femme. Et puis, par conséquence, aussi nier qu'on est capable et appelé à entrer dans une relation avec Dieu. Puisque toutes ces négations sont tellement d'actualité aujourd'hui, regardons-les de plus près pour comprendre mieux notre culture aujourd'hui, condition nécessaire pour pouvoir proclamer la bonne nouvelle. Alors, soit je suis créature, soit je suis mon propre créateur, ce qui signifierait que Dieu n'existe pas. Et soit Dieu m'a créé par amour, soit il m'a jeté dans la vie sans amour et m'a laissé à mon sombre destin. Entre ces deux options, il n'y a pas de compromis. C'est soit l'un, soit l'autre. Il n'y a pas de mélange possible. On ne peut pas être un peu créature et un peu créateur. Dieu, logiquement, ne peut pas être un peu bon et un peu mauvais. Autant que chrétiens, nous croyons et nous avons cette immense grâce de croire en la meilleure version de toutes. Non parce que nous l'aurons imaginé ainsi, mais parce que c'est ainsi que Dieu s'est montré, s'est révélé à nous. Et si nous croyons ce que la Bible et l'Église nous enseignent est vrai, nous sommes créés par un Dieu absolument bon. L'homme découvre dans sa propre existence et dans le monde qui l'entoure un sens, un telos en grec, qu'il est appelé à accomplir. Sa vie a une direction, une orientation, un but, un sens. Toute notre existence a un sens et une signification. Notre âme immatérielle, notre corps matériel, le fait même que nous existions. Tout notre corps et notre âme a été créé pour que nous puissions librement choisir le bien. Et y découvrir la vie en plénitude que Dieu veut partager avec nous. De cette image de l'homme découlent évidemment des exigences éthiques. Tu ne tueras pas, tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu ne voleras pas, tu ne commettras pas d'adultère, etc. Chacun de ces commandements de Dieu, qui sont un guide pour la vie en plénitude, découle logiquement et naturellement de la nature humaine. Ce ne sont pas des commandements imposés par un Dieu qui a eu des idées spontanées. En fait, ça découle de notre nature humaine, si nous la comprenons bien. L'alternative à la nature de l'homme, autant qu'image de Dieu, est quoi? Eh bien, c'est qu'on est un accident cosmique. Sans Dieu, sans sens, sans telos. Produit de processus atomiques aveugles, jeté dans une existence dénuée de sens. Une culture dans laquelle les hommes se comprennent de cette manière tombe nécessairement dans l'abîme du nihilisme, dans lequel seule l'autodéfinition de l'homme confère une identité. Dans ce monde nihiliste, la recherche de l'identité et la satisfaction des besoins illimités deviennent le sens existentiel de la vie. Se comprendre comme imago Dei, comme image de Dieu, conduit l'homme au contraire à une prise de conscience croissante de sa dépendance vis-à-vis de Dieu, ce qui lui offre une liberté croissante vis-à-vis du monde. Se considérer comme le produit d'un hasard cosmique semble être une liberté pour l'individu qui se croit autonome, mais c'est en fin de compte une liberté d'un orphelin. Il est livré à ce qui est plus fort que sa volonté, à son propre désir et au désir de ceux qui ont plus de pouvoir que lui. Autant que chrétiens, nous croyons que la réalité matérielle a autant d'importance et de bonté que la réalité immatérielle. Les deux peuvent se détourner de Dieu, les deux peuvent se pervertir dans le sens propre du mot, mais les deux sont fondamentalement bons et voulus par Dieu. Dieu a créé l'homme avec un corps et en deux versions, homme et femme. Il l'a doté d'un esprit, d'une âme immortelle. Et c'est grâce à son corps animé par un esprit que l'homme est capable d'aimer, d'entrer en relation les uns avec les autres, avec son environnement et avec Dieu. Dès le début, Dieu demande à l'homme d'assumer sa propre responsabilité, car il l'a rendu capable de faire des choix librement. Ces choix sont des signes visibles d'un corps animé par un esprit. La nature de l'homme n'est donc pas seule dans son esprit, mais dans l'unité de son esprit et de son corps. Et puisque c'est avec cette nature et pas contre elle que nous sommes appelés à la vie éternelle avec Dieu, nous croyons le plus fou de tout, eh bien c'est la résurrection du corps. C'est quand même assez incroyable. La foi chrétienne est absolument unique dans son postulat que la réalité matérielle a du sens. Cherchez ailleurs, vous n'allez pas trouver. Vous ne trouverez nulle part une théologie qui dit le monde matériel, votre corps a un sens. Le monde matériel fait si indissociablement partie du monde spirituel qu'il existera même pour l'éternité, évidemment sous une forme transformée. De même, toute la création, et pas seulement l'homme, souffre des conséquences du péché originel. De même, toute la création sera rachetée. Cependant, cette indissolubilité de l'unité corps-esprit est pour beaucoup aujourd'hui et pour notre culture actuelle non pas une bénédiction, mais une malédiction. Elle entrave notre liberté. Elle représente une restriction à la capacité de l'homme de choisir ce qu'il veut, à être ce qu'il est réellement, au-delà des limitations matérielles. Dans toute l'histoire de l'humanité, l'idée d'une existence libérée du poids du corps, de l'espace-temps et des contingences du monde matériel a attiré l'homme. Et à vrai dire, ça nous attire aussi. Enfin, moi, j'aimerais bien ne pas m'endormir dans mon temps de prière. J'aimerais bien ne pas avoir trop chaud, trop froid, trop je ne sais pas quoi. Donc, ça nous attire quand même aussi, cette idée. Mais la vraie question est celle-ci. Est-ce que notre véritable identité ne se situerait pas dans l'immatériel, dans notre esprit libre de toute restriction? Est-ce que notre corps et le monde matériel ne seraient pas une prison duquel il faudrait s'évader? Dans cette vision des choses, je peux effectivement utiliser mon corps comme je le souhaite, le modifier, changer de sexe, voire supprimer mon corps lorsqu'il est trop pénible. La rébellion contre l'unité irréductible de l'âme spirituelle avec un corps a été formulée dans le courant philosophico-religieux de la gnose, justement, qui a traversé les siècles en de nombreuses variations et qui toujours affirme toujours la même chose, le corps et toute matière est mauvais, seul l'esprit est bon. Il s'ensuit que dès cette vie, l'esprit doit s'élever au-dessus du corps pour s'approcher de l'état idéal, un détachement total du corps. En philosophie, on appelle ça émanation, un détachement de l'esprit du corps. La vraie nature de l'homme est spirituelle, dit la gnose. Il n'est pas difficile de voir que les grandes questions sociétales aujourd'hui ont à voir avec cela. La théorie du genre est une vision profondément gnostique du monde et de l'être humain. Elle est une tentative de dépasser la binarité homme-femme préétablie, donc pas choisie, donc liberticide, des sexes et du corps en général, et de livrer l'être humain à l'autodéfinition arbitraire de son identité. Le corps est ici un matériau brut qui doit servir l'esprit et cette identité immatérielle, et lui être absolument subordonné. L'homme qui ne se situe que dans l'esprit exerce un pouvoir sur son corps qui peut donc être manipulé à volonté, mutilé de manière irréversible, rendu stérile. Toutefois, l'homme qui veut s'évader de la captivité de son corps et de la binarité des sexes se retrouve aussitôt dans une nouvelle captivité, à savoir la quête jamais vraie, la quête sans fin d'une identité qui ne peut s'attacher à rien, qui ne peut jamais trouver la paix dans cette vie. C'est un cercle vicieux, sans fin, de devoir se réinventer en permanence. Il ne peut certes pas décider de sa naissance, mais il peut décider de sa propre identité, de sa propre mort, et de la vie ou de la mort de ceux qui sont plus faibles que lui. Les enfants à naître, les personnes âgées, les malades. Le pouvoir qu'il exerce sur son propre corps devient l'habitus de l'exercice du pouvoir sur le monde. Si nous mettons donc de côté la conception chrétienne de l'homme, qui comprend l'homme comme une unité corps et esprit, nous tombons nécessairement dans un dualisme qui absolutise soit la matière, soit l'esprit et en fait une idole. L'un est donc le matérialisme, l'autre est la gnose. Les deux ont la même racine car les deux proviennent du même péché originel, à savoir, justement, la séparation du corps et de l'esprit, du corps et de l'âme. Donc, le matérialisme, c'est assez facile. Il idolâtre la matière, le propre corps et le monde matériel, y compris d'ailleurs les propres désirs. Donc, tout cela devient l'idole. Et comme avec chaque idole, tout doit lui être subordonné. L'esprit, l'âme, l'aspiration à la transcendance, à la vérité, le désir de Dieu, tout cela est méprisé. Aujourd'hui, pourtant, je pense que le matérialisme n'est pas la tentation principale de l'homme. C'est la gnose. Et la gnose, au contraire, méprise la matière, surtout le propre corps, comme un mal, comme un obstacle à la liberté, et divinise l'esprit. L'esprit devient l'idole qui demande ses sacrifices, comme n'importe quelle idole. Plus rien dans le corps ne doit être respecté, car plus rien a d'importance. Les fonctions naturelles du corps, sa santé, sa beauté, sa fertilité, tout cela peut être détruit, doit même être détruit, car dans cette destruction se trouve la preuve visible de la puissance de l'esprit individuel absolutisé. Les deux visions du monde, le matérialisme et la gnose, ont toujours conduit, toujours, aux pires catastrophes. Seulement dans le XXe siècle, regardons ce qui a conduit au goulag, au camp de concentration. C'était les régimes athées qui ont sacrifié les gens en masse au nom d'une idéologie, soit matérialiste, soit agnostique. Aujourd'hui, la conception agnostique de l'homme, de l'être humain, conduit des dizaines de milliers d'enfants et d'adolescents à mutiler leur corps de manière irréversible avant même de la puberté, à détruire des fonctions saines et à le rendre stérile. On voit une augmentation de entre 600 et 2000% de cas par an. C'est une tendance de masse. 80% sont des filles. De quoi parlons-nous quand un enfant ou un jeune est transgenre? On parle des traitements hormonaux, du sexe opposé qui produisent des destructions physiques irréversibles, notamment sur la fertilité. On parle des mastectomies pour les filles de 15 ans qui se font enlever leur sein, des mutilations chirurgicales de l'appareil génital, etc. Tout cela a des conséquences de santé graves et à vie. Et on fait des lois, comme dans mon pays, en Allemagne, on est en train de passer une loi, que tout cela, un adolescent de 14 ans a droit à tout cela sans consentement des parents. Le matérialisme et la gnose ont en commun de se caractériser par un profond mépris de l'être humain autant qu'image de Dieu, unité, corps et âme, homme et femme. L'anthropologie gnostique s'impose politiquement dans la société par la redéfinition des droits de l'homme, qui font de l'individu un individu autonome et un absolu qui nie sa nature. Gnose, en fait, signifie connaissance. Donc, la pensée gnostique est, comme j'ai dit, extrêmement dualiste. Donc, Dieu est totalement inaccessible à l'homme. Et en raison d'une catastrophe cosmique, le monde inférieur est né, dans l'idée de la gnose, qui ne contient aucune révélation et qui ne pourrait pas entrer en relation avec cette divinité. L'homme est jeté dans ce monde, il en est prisonnier, il ne peut s'en libérer que par, justement, l'émanation de l'esprit au-delà de la matière. Tout comme l'homme ressent son corps comme une prison, il en va de même pour le monde. Le monde, dans la pensée gnostique, est un système de pouvoir qui asservit l'homme. Toute relation n'est qu'un jeu de pouvoir. La seule issue est la fuite dans l'immatériel, dans l'esprit. Ainsi, la désincarnation de l'esprit devient le chemin du salut et de la rédemption. L'homme n'a besoin d'aucun sauveur, d'aucune grâce, d'aucune conversion. L'unique rédemption possible est le dépassement de la matière par l'esprit et donc aussi de son propre corps. Vous voyez là peut-être que parfois on peut se demander mais pourquoi ce débat aujourd'hui est tellement acharné, tellement agressif, tellement... Il y a presque plus de débat possible. Eh bien, tout devient clair quand vous comprenez que c'est un combat absolument existentiel de liberté et d'existence même en fait, quand on est dans cette perspective-là. Dans la pensée gnostique, l'homme n'a aucune responsabilité et aucune culpabilité, contrairement à la doctrine chrétienne du péché originel et du péché individuel qui en est la conséquence. Et cela a des conséquences dramatiques. On pense toujours à un monde sans péché, ça serait tellement, tellement meilleur, et sans culpabilité. Mais en fait, c'est tout le contraire. Sans responsabilité, il n'y a pas de liberté. Sans culpabilité, il n'y a pas de pardon. C'est un monde cruel, sans miséricorde, sans pardon, sans amour. Dans la pensée gnostique, l'homme n'est pas un pécheur qui peut tomber et pardonner, peut se relever et toujours à nouveau décider librement à faire le bien, mais il est victime de l'oppression de la nature. On vit alors dans une culture de victimisation et la plus grande offense est de condamner quelqu'un à vivre avec des limites imposées par la nature, avant tout son sexe qu'il n'a pas choisi. Se libérer donc de son propre corps est le chemin de la libération, de la rédemption du statut de victime. La gnose considère d'ailleurs le serpent, dans la Genèse, comme le premier porteur de connaissances, qui démasque le Dieu créateur cruel et sert à l'éveil de l'esprit emprisonné. Pour revenir à la dignité de l'homme, dans la pensée gnostique, elle ne s'applique que à l'esprit immatériel, donc à la volonté propre. La confrontation avec la réalité objective, avec le monde matériel, est une offense, voire une attaque à la dignité individuelle. L'avortement, l'euthanasie, le changement de sexe, la mutilation de son propre corps, tout cela n'est pas seulement légitime, mais c'est moralement bon. Et de ne pas le permettre est moralement mauvais, car ce sont des signes de l'autonomie de l'esprit sur la matière insensée, et cela signifie progrès de l'humanité. Ce qui reste de tout cela, c'est l'individu nu, privé de sens, pour qui l'affirmation de sa volonté individuelle sur son corps est une lutte pour la survie. Toute référence à la réalité transcendante qui pourrait donner un sens et une valeur à l'existence terrestre a été perdue. Et on voit bien que Dostoïevski avait raison quand il disait « Sans Dieu, tout est permis ». Le premier qui a vu clair sur la gnose et qui l'a désigné comme une hérésie est Irénée de Lyon au IIe siècle. Donc ce n'est pas tout à fait un problème nouveau. Son argument principal est que Dieu est à la fois créateur du monde et de l'homme. Il s'oppose ainsi à la division contre l'esprit de la matière, entre l'esprit et la matière, parce qu'ils ont la même origine. Selon lui, Saint Irénée de Lyon, si Dieu est bon, le monde et l'homme qu'il a créé doivent l'être aussi. Pour l'homme autonome et gnostique, un Dieu qui est créateur, qui intervient dans le monde, qui est en relation avec sa création et qui devient lui-même homme, est une idée effarante. Cela signifie qu'il devrait se subordonner à ceux qui le privent de sa liberté, à savoir le corps qui le contraint à traverser la vie autant qu'homme ou femme. Le progrès de l'humanité réside précisément dans le dépassement de cette limitation et donc dans le dépassement de Dieu créateur. La question anthropologique n'est toutefois pas une affaire du IIe siècle, mais se poursuit à travers l'histoire de l'humanité jusqu'à aujourd'hui. Je dirais même que la pensée gnostique est aujourd'hui en plein essor, car jamais dans l'histoire nous avons nié qu'on est homme et femme. Aujourd'hui, nous le faisons. Aujourd'hui, on peut perdre son poste quand on affirme qu'on est homme et femme, on est menacé, on est mis sous pression, on est censuré, comme cela est arrivé la semaine dernière, je crois, il y a deux semaines, à une jeune biologiste de l'université Humboldt de Berlin qui fait ses recherches sur une espèce de poisson qui sont des hermaphrodites. Et en fait, elle, tout à fait d'une éducation gauche, bien de gauche, dit « Bon, ce poisson, alors je fais ma recherche de doctorat sur ce poisson, mais dans la vie, normalement, les êtres vivants sont mâles et femelles. » Elle n'a pas pu parler à l'université. Il y avait des manifestations, il y avait une grande tempête sur les réseaux sociaux et elle a été censurée. Ça ne peut plus se dire. Elle a pu parler quelques semaines plus tard, mais sous protection policière. La vision gnostique de l'homme ne se limite toutefois pas à l'université, à la philosophie ou à la théologie. Elle se manifeste dans le droit national et international, dans la jurisprudence, dans la politique. Donc ça, c'est le monde dans lequel je suis au quotidien. Comment est-ce que ça se manifeste dans le cadre concret qui forme notre société? L'analyse de l'évolution des droits de l'homme permet d'observer avec objectivité, c'est ça qui est fascinant, l'évolution de l'idée que les instances internationales se font de l'homme. Alors, très brièvement, mais la modernité a voulu rationaliser l'ordre politique. C'était avant, c'était divin, il y avait Dieu comme référence, et la modernité a rationalisé l'ordre politique, et ce faisant, elle l'a enfermé en lui-même, la coupant de la source transcendantale de la morale. Et cela a conduit, évidemment, c'est un raccourci là un peu, mais cela conduit directement à l'établissement des régimes totalitaires, à la fois légaux et immoraux du XXe siècle. Suite aux catastrophes du XXe siècle, la relation entre personne et société est repensée. Ça n'a visiblement pas marché. La vision jusque-là, qui subordonnait traditionnellement la personne à la société comme une partie à l'égard de tout, a été renversée. L'expérience des totalitarismes et des collectivismes a fait prendre conscience de façon douloureuse à quel point la domination de la société sur ses membres peut être cause d'injustice. La relation individu-société a été renversée après la Deuxième Guerre mondiale et à la création de l'ordre international moral, qui s'est exprimé dans les droits de l'homme. l'affirmation de la primauté des individus sur la société n'est pourtant pas sans risque, car le rejet du collectivisme, s'il dévalorise excessivement la société, peut mener à l'excès inverse qu'est l'individualisme. Celui-ci consiste à faire prévaloir absolument l'individu sur la société. Il refuse l'existence du bien commun, car la société n'aurait pas intérêt propre à lui et lui préfère la notion d'intérêt général comme somme des intérêts particuliers. Cette approche, qui s'est depuis largement réalisée en Occident, conduit à une dissolution de l'identité sociale, à l'abandon des valeurs communes, au profit du pluralisme et du relativisme. À la création du nouvel ordre international post-guerre, qui d'ailleurs contient beaucoup, beaucoup de bonnes choses, mais qui est loin d'être parfait, deux conceptions opposées de l'homme et de sa dignité, encore une fois, étaient en concurrence. D'un côté, l'homme est créature et fils porté d'une nature et recevant sa dignité de Dieu ou de la nature créée. De l'autre côté, l'homme est Dieu, son propre créateur, sans instance au-dessus de lui. Il est son propre père, auteur de sa dignité. Entre ces deux approches, l'opposition est radicale. Et l'était. Quand vous lisez les documents 1948 et suivants, à la création des grands traités internationaux, l'opposition était féroce et vraiment radicale. Elle était dans le débat déjà de d'Irénée de Lyon au IIe siècle. Elle était à la création des traités internationaux des droits de l'homme et elle est aujourd'hui de plus belle. À la création de cet ordre international post-guerre, le monde était d'accord sur une chose, définir la base commune des systèmes politiques qui seraient immunisés contre des tendances totalitaires. Respectant la personne humaine autant qu'individu, avec des droits et des libertés fondamentaux que l'État a une obligation de respecter. On était d'accord sur ce point. Pourtant, le monde qui se réunissait, qui était de la Chine à l'Union soviétique, à l'Europe, aux États-Unis, enfin le monde entier pratiquement, et qui se réunissait pour négocier les grands traités internationaux, était en profond désaccord sur une question. Qui est l'homme? D'où vient-il? Et deux visions se sont violemment confrontées à la création de notre ordre juridique, qui toujours est notre ordre juridique aujourd'hui. Et ils étaient incarnés, il y avait évidemment plein de personnes, mais ils étaient vraiment incarnés par deux personnages que vous connaissez sans doute, en tout cas le premier, Jacques Maritain, philosophe et biologiste et physicien, converti au catholicisme en 1906. Il a une histoire très intéressante avec sa femme Raïssa, parce qu'il vient d'une famille agnostique, anticléricale, militant anticléricale, et en fait, ils ont expérimenté tellement le vide de l'existence sans Dieu, tellement c'était fort pour eux, qu'ils se sont jurés, les deux, jeunes mariés depuis quelques mois, que si l'année prochaine, à cette date, on n'a pas trouvé un sens de cette vie, on va se prendre la vie, on va se suicider, les deux, ensemble. Eh bien, Dieu est bon, et ils se sont tous convertis, toutes les deux, et avec Léon Blois et Charles Péguy et tous ces catholiques intellectuels du XXe siècle qui sont devenus leurs amis. Eh bien, lui, donc, représente le personnalisme chrétien, l'humanisme chrétien, il a écrit même un livre qui s'appelle Humanisme intégral, d'un côté, et puis de l'autre côté, le grand représentant de l'autre courant de pensée est Julian Huxley, anglais, lui aussi philosophe et biologiste, darwinien, provenant d'un milieu, son grand-père était le grand ami de Darwin, darwinien franc-maçon. Il fut aussi le premier président de la Société britannique de l'eugénisme. Et ces deux figures-là étaient absolument centrales dans la création des traités internationaux. Et ils représentent en quelque sorte, il y avait évidemment d'autres, hein, mais ils représentent ces deux visions de l'homme. La vision de Maritain était que la dignité incarnée se réalise dans l'accomplissement par chaque personne de sa nature humaine, dans l'esprit, dans l'unité esprit-corps, avec un corps sexué, par exemple dans le fait d'avoir des enfants, de les élever, d'assumer des responsabilités. Tandis que pour Huxley, la dignité est désincarnée et consiste en une libération ou un dépassement par chaque personne de sa nature, justement. En simplifiant, la dignité incarnée est d'être pleinement créature, la dignité désincarnée est d'être son propre créateur. Selon que l'on opte pour l'un ou pour l'autre conception de l'homme, les droits de l'homme prennent toute une autre direction. Ils sont l'expression soit du droit naturel, soit de la volonté arbitraire de l'homme. Et le grand problème que nous voyons aujourd'hui, c'est que nous ne sommes toujours pas d'accord sur cette question. Et donc, tous ces débats sociétaux se jouent d'abord dans les cours où les juges interprètent ce cadre juridique. Parce qu'on n'était pas d'accord. On a créé ce qu'on pouvait. Et Jacques Maritain a dit à la fin, c'est fait, on est d'accord que l'homme a une dignité, mais et des libertés fondamentales et des droits fondamentaux, mais à une condition, à la condition qu'on ne demande pas pourquoi. Et ce pourquoi est toujours la grande question aujourd'hui. Vous voyez comment derrière tout débat politique, sociétal ou juridique se cache la question de l'existence de Dieu, qui implique celle de savoir si l'homme est créature ou qu'il existe par lui-même. En se révélant aux hommes, Dieu a aussi révélé l'homme à lui-même. Mais sans cette révélation de l'homme par Dieu, nous sommes condamnés à ne plus nous connaître que subjectivement, sans le miroir de l'altérité divine. Ainsi, la cause de la transformation des droits de l'homme que nous observons aujourd'hui, donc par exemple, un droit à la vie est devenu un droit à mourir, qui n'existe d'ailleurs pas, noir sur blanc, mais qui est invoqué beaucoup, serait moins à rechercher dans les droits de l'homme, donc cette transformation-là serait moins à rechercher dans les droits de l'homme eux-mêmes que dans le rejet de Dieu créateur et révélé. Cette sécularisation retire à l'homme son identité et sa dignité de créature, de fils, pour lui donner la liberté infinie des orphelins. Cette expression n'est pas la mienne, donc je vais quand même citer un auteur qui a écrit un magnifique livre qui explique tout ça, Grégoire Pupinck, « Les droits de l'homme dénaturés », je vous le recommande. Sur l'arrière-fond du rejet de Dieu se produit un double mouvement d'affirmation des nouveaux droits individuels et de destruction de l'ontologie personnaliste et chrétienne. Mais ces deux mouvements n'en forment qu'un, car les nouveaux droits ne visent qu'à l'acquisition du pouvoir de se libérer de cette ontologie. C'est ainsi que le pouvoir de la personne sur elle-même est libéré en brisant l'harmonie, en introduisant le conflit dans l'être. Ces nouveaux droits à l'avortement, à l'euthanasie, à l'homosexualité, à l'eugénisme, sont tous l'expression de ce conflit. Ce sont des droits de la volonté sur le corps. Ils garantissent l'exercice d'un pouvoir même contre le propre corps. À la différence de la justice, ces droits d'un nouveau type ne visent pas l'équité, mais le pouvoir. À présent, en Occident, l'origine de la dignité humaine s'est déplacée. Elle ne réside plus dans l'unité harmonieuse de corps et de l'esprit, mais dans la domination du seul esprit individuel. Le respect de cette dignité exige alors celui de son expression par la libre volonté individuelle. Il en résulte que tout acte accompli sur soi-même est bon dès lors qu'il évolue librement. Le grand théologien italo-allemand du XXe siècle, Romano Guardini, parle dans son œuvre prophétique, je vous le recommande aussi, « La fin des temps modernes suivie de la puissance », c'est le titre. Il parle de la profonde solitude de l'homme dans le monde, parce que la nature n'a plus rien de sécurisant. Pour Guardini, cet homme solitaire a deux références fondamentales. Lui, il appelle ça l'homme non humain, qui, par la technique, devient l'objet du progrès technique et par la planification, l'homme de masse. Et il parle, la deuxième référence, c'est la nature non naturelle, avec laquelle il n'existe plus aucun rapport positif. Quand on comprend la vision de l'homme derrière toutes ces tendances puissantes de notre culture aujourd'hui, on comprend que c'est la même tentation de Adam et Ève qui veulent prendre la place de Dieu plutôt que de se recevoir de lui autant que créature. Aujourd'hui, grâce au progrès technique, l'expression de cette tentation attaque l'homme plus profondément que jamais. Alors, vous vous êtes peut-être demandé, je regarde l'heure, ok, j'ai encore quelques minutes, vous vous êtes peut-être demandé, mais quand est-ce qu'elle parle de l'Eucharistie? C'était quand même le titre, non? Bon, j'y arrive. Que pouvons-nous donc faire? C'est ça la grande question. Que pouvons-nous faire? Où trouver de l'espoir dans une culture qui s'éloigne si radicalement de Dieu? Gaudium et Spes nous dit, en réalité, c'est seulement dans le mystère du Verbe incarné que s'éclaire véritablement le mystère de l'homme. Et Guardini, d'ailleurs, dit la même chose. Il dit, l'homme ne peut se comprendre que par Dieu. En fin de compte, nous ne pouvons comprendre qui nous sommes qu'à partir de Dieu et nous ne pouvons faire face à la vision gnostique du monde qui est incroyablement attrayante pour l'homme, incroyablement, parce que c'est une libération pour lui, apparemment, que si nous redécouvrons le sens du monde matériel et de notre corps. C'est pour ça que la théologie du corps de Jean-Paul II est absolument essentielle pour notre temps aujourd'hui. Si nous redécouvrons que le monde matériel et notre corps ne sont pas un obstacle à notre liberté, mais permettent la vie en plénitude, alors nous pouvons donner quelque chose à ce monde. Si la nature de l'homme est l'unité du corps et de l'esprit à l'image de Dieu, cela veut dire que Dieu habite profondément le monde matériel, profondément. L'acte de rédemption de Dieu sur la croix n'était possible qu'en devenant homme, chair et os. Et Dieu prend notre rédemption tellement au sérieux qu'il nous a laissé un signe matériel de son acte rédempteur sur la croix jusqu'à la fin des temps, et c'est justement l'Eucharistie. Dieu va jusqu'à l'extrême, dans chaque messe, pour nous montrer que tout le monde matériel, toute la réalité physique a du sens en se donnant à nous dans sa chair et dans son sang, en se donnant physiquement et spirituellement en nourriture pour nous. En l'Eucharistie culmine l'action suprême de Dieu à notre égard, le salut gagné sur la croix. Dieu se soumet totalement aux limites du monde matériel et de son corps, dans la souffrance jusqu'à la mort, mais aussi dans tout son ministère sur terre, la joie, la convivialité, l'amour pour ses amis, la fatigue, la faim, la soif, la prière dans le désert, la fête. Tout est corporel, tout. Jésus a vécu tout cela dans son corps en donnant à toutes ses limitations, parce que ce sont des limitations, un sens profond. Mais sur la croix, il a aussi remis son esprit, et pas que son corps, dans les mains du Père. Et là, la gnose, vous voyez, la grande tentation, c'est une tentation spirituelle. Ce n'est pas une tentation matérialiste, c'est une tentation spirituelle. Et donc Jésus a aussi remis son esprit. « Père, je remets mon esprit. » C'est la proclamation de la vérité de son être qui est celle d'être fils, au milieu de la plus grande limitation physique imaginable, la souffrance et la mort. C'est cette vérité-là que nous actualisons dans chaque Eucharistie. C'est ainsi et pas autrement que Dieu a voulu nous racheter et qu'il a ainsi sanctifié une fois pour toutes notre nature corporelle, matérielle et spirituelle. Dans l'Eucharistie culmine aussi notre vénération de Dieu, qui est toujours une vénération de la nature de Dieu, évidemment. Entièrement Dieu et entièrement homme, entièrement esprit, se faisant entièrement corps. Ce n'est pas 50-50, c'est 100% et 100%. Et la seule manière d'être capable de cette vénération est autant que personne, nous-mêmes, composés de corps et d'âme. Moi, je pense qu'il y a aujourd'hui urgence de se laisser guérir par l'Eucharistie. Si l'Église, si nous tous, nous voulons répondre à l'appel « porter la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre », nous devons comprendre que l'extrémité est juste devant nous. L'homme, pris par cette grande tentation gnostique, qui vit une solitude extrême à l'égard du monde, à l'égard des hommes et à l'égard de lui-même. Regardons vers le sommet de l'action de Dieu, l'Eucharistie, ce don ultime de Dieu, en corps et en esprit. C'est à partir d'elle que nous comprenons tout. Elle est comme le médicament contre les égarements qui coupent l'homme de la vie en plénitude, de la paix avec Dieu lui-même, de la communion avec les autres. Et nous voyons bien que dans notre société, ça va mal à tous ces niveaux. Nous ne savons plus vivre ensemble. Nous ne savons plus vivre avec nous-mêmes. Et ces égarements produisent beaucoup, beaucoup de souffrance. Le catéchisme dit sur l'Eucharistie, « L'Eucharistie est l'action de grâce pour les œuvres de Dieu, la création, la rédemption et la sanctification. Dans chaque Eucharistie, nous sommes donc, ça c'est plus le catéchisme, c'est moi, nous sommes donc catapultés dans le mystère tout entier de Dieu qui agit avec son esprit dans le monde matériel. Donc la création, donc l'Eucharistie, ça c'est le catéchisme le dit, hein, dans l'Eucharistie, nous rendons grâce pour les œuvres de Dieu. La création, la rédemption et la sanctification. Donc la création, nous rendons grâce parce que Dieu a créé la matière et l'homme à son image, autant que corps et esprit. La rédemption, parce que Dieu s'est fait homme et nous rachète par le don total de son corps et de son esprit sur la croix. Et la sanctification, parce que Dieu veut que nous puissions être entièrement guéris. Si guéris que nous soyons à nouveau entièrement capables d'entrer en relation avec lui et de vivre avec lui pour l'éternité. Cette sanctification et cette guérison sont également corporelles et spirituelles, car nous ne croyons pas seulement à l'âme éternelle, mais aussi en la résurrection du corps pour l'éternité. Nous voyons donc que Dieu écrit toujours l'histoire de son salut dans et à travers la réalité matérielle. Dans l'Eucharistie, dans la fraction du pain, le Christ se donne matériellement à nous jusqu'à la fin des temps. Toute sa divinité est comme enfermée dans ce pain de l'Eucharistie. C'est dans la matière transformée par l'Esprit que s'accomplit le salut. Toutefois, dès le début, la croix et l'Eucharistie divisent les disciples. Et je rappelle juste Jean 6, que vous pouvez lire plus tard en entier, mais je lis quelques versets. Jésus lui dit, « Tel est le pain qui descend du ciel, que si quelqu'un en a mangé, il ne meurt pas. Moi, je suis le pain vivant, je suis descendu du ciel. » Et paf, les Juifs se disputaient. Donc, entre eux, en disant, « Comment peut-on donner sa chair à manger ?» Quel scandale! Jésus leur dit donc, « Amen, amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas ma chair, la chair du Fils de l'homme, et ne vous buvez pas son sang, vous n'avez pas de vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit de mon sang de la vie éternelle, je le ressusciterai au dernier jour. » Car ma chair est vraiment nourriture et mon sang est vraiment boisson. » Et ça continue un peu et puis les disciples disent, le verset dit, « Beaucoup de ses disciples ayant entendu dire donc, cette parole est dure, qui peut l'entendre ?» Ce qui choque les disciples, les sages, les prêtres juifs de l'époque autour de Jésus, c'est toujours cette unité radicale de l'esprit et de la matière. Le fait que Jésus se soit livré à son Père de manière si radicale, dans son corps, dans son âme, et qu'il n'ait pas hésité à soumettre sa divinité au monde matériel et pécheur, restera un scandale. Et pourtant, l'Église a toujours affirmé de manière sûre que, je cite le catéchisme, dans le très saint sacrement de l'Eucharistie, sont contenus vraiment, réellement et substantiellement le corps et le sang, conjointement avec l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, et par conséquent, le Christ tout entier. Et il y a encore quelque chose, et je conclus, quelque chose de vraiment important, je trouve, dans le catéchisme encore, cette présence eucharistique, on la nomme réelle, non à titre exclusif, comme si les autres présences n'étaient pas réelles. Donc si je ferme les yeux et je prie, c'est réel, c'est réel. J'entre en relation avec Dieu. Mais c'est réel, non à titre exclusif, comme si cela n'était pas réel, mais par excellence, parce qu'elle est substantielle, parce que par elle, le Christ, Dieu et homme, se rend présent tout entier. Donc vous voyez que, évidemment, la réalité spirituelle est réelle, mais la présence par excellence, tout entière, c'est dans l'unité entre le monde spirituel et matériel. Et je veux conclure avec un tout dernier point qui sera très court, mais important. L'Église nous dit ceci, et ça c'est, si quelqu'un, enfin, vous pouvez lire les chapitres sur l'homme et sur l'Eucharistie dans le catéchisme, c'est magnifique. C'est 13, 77. L'Église nous dit que l'Eucharistie nous engage vers les pauvres. Et je cite, pour recevoir dans la vérité le corps et le sang du Christ livrés pour nous, nous devons reconnaître le Christ dans les plus pauvres, ses frères. Et puis le catéchisme cite Saint Jean Chrysostome et il dit cela, tu as goûté au sang du Seigneur et tu ne reconnais pas même ton frère. Tu déshonores cette table même, en ne jugeant pas digne de partager ta nourriture avec celui qui a été jugé digne de prendre part à cette table. Dieu t'a libéré de tous tes péchés et t'y a invité. Et toi, pas même alors, tu n'es devenu plus miséricordieux. Donc, moi, je pense que là, il y a un lien direct à notre culture. L'Eucharistie, si nous vivons de ça, si nous vivons de cet immense trésor que j'espère nous avons pu peut-être apprécier un peu plus en contemplant aussi l'alternative, en contemplant comment les gens vivent qui ne connaissent pas Dieu, eh bien, nous avons une obligation de vraiment devenir plus miséricordieux, mais la miséricorde ne peut que coexister avec la vérité, si elle ne veut pas devenir une hérésie et du relativisme. Et donc, du coup, c'est là, et l'Église nous y invite, dans le catéchisme même, nous invite à devenir plus miséricordieux pour ce monde qui nous entoure à travers de l'Eucharistie. Et je pense que nous devons vraiment surmonter ce scandale de dire, mais c'est fou, mais comment est-ce qu'on peut penser comme ça? Comment est-ce qu'on peut agir comme ça? Comment est-ce qu'on peut réclamer un tel droit? Et nous pouvons vraiment dépasser cela et dire, mais en fait, là, il y a une tentation spirituelle derrière qui est terrible, et évidemment une responsabilité aussi, et une solitude existentielle, une solitude très profonde. Et donc, si nous avons cet immense trésor de l'Eucharistie, eh bien, utilisons-le pour ce monde. Merci beaucoup.